Nous sommes encouragés par le silence du soldat à tant et plus. Au début, ce n'est qu'un chuchotement à peine audible. Le soldat ne réagit pas. Pourtant, il a dû entendre. Nous nous enhardissons et échangeons quelques paroles assez haut pour que nous puissions nous comprendre. Toujours rien. Notre gardien se tait. Nous continuons à nous parler ainsi une vingtaine de minutes. Sonnerie du téléphone. Le soldat répond par de laconique « Ya, ya ». Immédiatement, nous nous retournons vers le mur. Sans doute, cette communication nous concerne-t-elle, car le soldat s'adresse à nous. « Comme un zimir ». Traduction « Venez avec moi ». Il lève les mains avec un geste d'impuissance. Son regard compatissant semble dire « Je ne peux plus rien, il va falloir y aller ». Dans le nôtre, a-t-il su lire le merci que nous avons voulu y faire passer ? Je l'espère. Cet entretien très particulier entre Gisèle et moi nous a permis à mots couverts de faire le point afin que nos déclarations au cours des interrogatoires ou des confrontations à venir soient concordantes. Je pense que le soldat n'était pas un nazi. Il nous conduit dans une autre pièce où, en présence des policiers, Gisèle et moi sommes confrontés. Nous nous connaissons, nous ne pouvons le nier. Mis à part cet aveu, nous ne disons rien qui puisse être compromettant pour nous ou nos camarades. Chapitre 4. Départ pour Fresnes. Vers la fin du mois de mai, un matin, la gardienne vient m'annoncer de me préparer rapidement pour partir. Elle ne me donne pas d'autres explications. Elle m'autorise à aller embrasser maman. Nous ne pleurons pas. Nous voulons être fortes. Et c'est dur, très dur. Je pars pour l'inconnu. Plus tard, après ma libération, j'ai su que maman avait passé d'affreux moments après mon départ de camp. Elle avait imaginé le pire pour moi. Elle ne supportait plus les photos de la famille. Elle savait, comme moi, que les Allemands sont capables de tout. À sa libération, peu de temps après mon départ, elle a fait des recherches pour savoir où j'étais. C'est la Croix-Rouge qui l'informa de mon transfert à Fresnes. Après que j'ai quitté maman, on me conduit dans le hall de la prison. Là, sont alignés une vingtaine de jeunes hommes, tous encadrés par des soldats armés de mitraillettes. La gardienne a parlé de départ. Où nous mène-t-on ? La prison et ses vicissitudes, les interrogatoires parfois rugueux, parfois insidieux, m'ont doté d'un certain fatalisme et de la capacité de faire face à l'événement sans rien laisser paraître de mon émotion. Néanmoins, face à ces jeunes hommes dont la plupart sont marqués par les interrogatoires musclés qu'ils ont subis, j'ai du mal, beaucoup de mal, à ne pas laisser paraître mon émoi. D'autant plus que certains d'entre eux me sont connus. Le cérémonial constitué par cette garde rapprochée de soldats armés m'impressionne. Gisèle, Guillemot et Edmond Robert sont là aussi. Des amis. Je suis invitée sans ménagement à me joindre à elle. Un silence pesant règne dans le hall, troublé seulement par le bruit de bottes dans les couloirs. Les ordres glapillent comme seuls les Allemands savent le faire. Nous autres, hommes ou femmes, n'avons pas le droit de communiquer. Ce silence-là m'est insupportable. Départ. Tout ce que ce mot renferme m'angoisse. Ma gorge se serre. Vers quel destin nous mène-t-on ? Je crains le pire. Les portes s'ouvrent. On nous fait sortir. Les fourgons cellulaires sont là. Nous montons et sommes introduits chacun dans une cage grillagée. Nous sommes vraiment de grands terroristes. Après un court trajet, les voitures s'arrêtent. Les gardiens, toujours armés de leurs mitraillettes, nous extraient des cages. Nous sommes à la gare. Ouf! Ça vaut mieux qu'une clairière au milieu d'un bois. Nous ne savons rien du sort qui nous est réservé, mais la vie continue. Caen, Fresnes via Paris. Je crois me souvenir, sans en être certaine, que les fourgons cellulaires nous ont débarqués à l'arrière de la gare. On nous dirige sur un quai où se trouve une rame en partance. Nous, les femmes, nous montons en tête du train dans un wagon de voyageurs. Nous ne sommes pas habitués à tant d'égards. Nous ne faisons pas la fine bouche, nous nous installons. Dommage que nous soyons toujours accompagnés par nos gardes du corps. Avant que ne soit donné l'ordre de départ, il nous faut attendre comme il se doit. Enfin, le train s'ébranle. Nous quittons Caen. J'ai un petit pincement au cœur. Arrivé dans cette ville avec la volonté de servir mon pays dans la résistance, je la quitte avec le regret de n'avoir pu militer plus longtemps aux côtés de mes compagnons de lutte. 3 semaines après mon arrivée dans la capitale bas-normande, à peine intégrée au groupe, je suis arrêtée. 6 mois de prison dans les geôles caennaises ont sanctionné mon bref passage parmi le groupe, dont certains éléments sont également dans ce train. De quoi notre avenir sera-t-il fait? Où allons-nous? Compiègne, Drancy, des noms bien connus comme étant l'antichambre de la déportation vers l'Allemagne. Nous allons vers Paris. C'est une certitude. Nous passons Lisieux, Évreux. Nos gardes, toujours armés de mitraillettes, occupent les 2 places se trouvant à chaque extrémité de la banquette, près des portières. Malgré cela, nous pouvons voir, de chaque côté, défiler la campagne. La nature, dans l'effervescence du printemps, nous fait ressentir davantage notre triste condition de détenus. Quelques heures plus tard, nous ne sommes plus très loin de la capitale. Maisons et pavillons de banlieue sont de plus en plus rapprochés. Bientôt, ils formeront une ligne continue au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de Paris. Nous arrivons à Saint-Lazare. Là aussi, un comité d'accueil, la mitraillette en bandoulière, est en place pour nous encadrer. Ils nous dirigent vers des bus parisiens qui nous sont réservés. Les hommes montent avec nous. C'est dans cet équipage que nous arrivons à Fresnes. Nous entrons dans la prison. À l'intérieur, nous retrouvons les sinistres cages grillagées où nous attendons des heures. L'antichambre de la mort. Enfin arrive, sous les ordres d'un militaire, une escouade de soldats armés. Peut-être sont ceux qui nous ont amenés ici depuis Saint-Lazare. Mais ainsi équipés, rien ne ressemble plus à un soldat allemand qu'un autre soldat allemand. Peu importe, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel serait une réponse à toutes les questions que nous nous posons. Mais la machine répressive allemande considère que c'est à elle de poser les questions et à nous d'y répondre, de gré ou de force. C'est en compagnie d'anges gardiens de la prison que nous nous engageons dans une sorte de couloir souterrain débouchant sur un véritable labyrinthe de galeries que l'on nous fait parcourir en tous sens. Totalement désorientés, nous serions incapables de retrouver le chemin de la sortie si l'occasion s'en présentait. Précaution superflue pour décourager toute tentative d'évasion. Notre pitroyable colonne s'arrête enfin. Les hommes sont emmenés dans une autre direction. Nous restons avec un gardien muni du traditionnel trousseau de clés. Nous sommes introduites chacune dans une cellule différente. Le maintien au secret continue. La cellule est plutôt sombre et vétuste, et le mobilier on ne peut plus rudimentaire. Dans de telles conditions, la détention y sera encore plus pénible que dans les précédentes. J'ai froid, le froid de la peur. C'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer en matière de réclusion. Recluse, c'est le terme qui convient. J'ai le sentiment que je pourrais hurler, frapper la porte de mes poings, personne ne m'entendrait. Recluse, oui, littéralement retranchée du monde des vivants. Une paillasse sur un grabat, chaise, table, le tout fixé au mur. L'essentiel, un point c'est tout. Mes yeux s'adaptent à la pénombre. Regard circulaire autour de mon réduit. Sur les murs suintants d'humidité, des graffitis. De toutes sortes. Parmi eux, celui d'un homme qui, dans un message laconique, a écrit que, le matin même, on vient le chercher pour le fusiller. Ce matin, cet homme était là. Maintenant, il est mort. Mon sang se glace. Moi aussi, je vais être fusillé. Je vais mourir. J'ai peur. Cette peur qui ne me quitte pas depuis des mois et qui en ce moment atteint son paroxysme. C'est la première fois que je suis dans cet état. C'est aussi la première fois que je suis dans une tombe. Ma tombe. Prostré sur ma paillasse, je sombre dans un sommeil agité. Finalement, après des réveils et des endormissements alternés, je me redresse et tente de chasser de mon esprit les images cauchemardesques qu'un réveil pénible n'a pas encore estompées. Les jours passent à travers un semblant de vie, un ersatz de vie, comme diraient les Allemands. Je n'ai rien pour écrire, bien entendu. Alors, je mémorise ma lettre d'adieu à ma famille, car j'ai la certitude que je vais être fusillé. Cette lettre, pourrais-je l'écrire? Et cette peur, toujours présente. Quand, le matin, la porte s'ouvre, je crois ma dernière heure arriver. Je sais maintenant ce que c'est d'être condamné à mort. Pendant un mois, j'ai eu cette peur. Changement. Alors que je continue à me morfondre dans ma cellule cachot, un matin, à une heure inhabituelle dans le rythme quotidien, j'entends la gardienne s'arrêter devant ma porte. Bruit de clé. La porte s'ouvre. La gardienne m'ordonne de réunir mes affaires et de la suivre. Je ne sais que penser. J'ai peur. Nous sortons du sous-sol. Chargée de mon maigre baluchon, je suis la gardienne à l'étage. Une porte est entrouverte. C'est là. J'entre dans une cellule. Même si l'aspect de celle-ci est moins sinistre que celle que je viens de quitter, je n'en suis pas plus rassurée. J'ai la même angoisse et la conviction que je serai fusillée dans les jours à venir. Tout est prêt dans ma tête. Je sais quelle conduite je devrais suivre. Je ne faillirai pas devant la mort. J'aurais certainement chanté et je n'aurais pas fléchi. Tout au moins, c'était ma décision du moment. Mais, en pensant à ma famille et au mal que j'allais lui faire, dans ces moments-là, j'étais effondrée. Dérivatif à ses inquiétudes, la gardienne annonce que nous allons prendre une douche. Ce ne sera pas un luxe, depuis le temps que je n'en ai pas pris. C'est un jour faste. Nous sommes nombreuses et les stalles sont prises d'assaut. Il faut faire vite. Les gardiennes nous pressent. Vite, vite! Bref passage sous la douche, le plus bref possible. Quand ça ne va pas assez vite, on nous sort d'office, ce qui fut mon cas. C'est ainsi que je n'ai pas eu le temps de me dévêtir complètement, la douche coulant en continu, me douche, tout habillé. Plus tard, on vient me chercher. Nouvelle peur. Mon séjour de ma précédente cellule m'a laissé des séquelles et tout changement aux habitudes de la prison me met au comble de l'inquiétude. Voici revenu le temps des interrogatoires. Un bus vient nous chercher pour nous amener dans les locaux de la Gestapo, rue Boissy-d'Anglas, à proximité de la place de la Concorde. Nous sommes toujours bien entourés par des soldats armés. L'âpreté des interrogatoires n'a pas faibli. Les tracts, qui les imprimait? Chez qui les imprimiez-vous? Quelles étaient les activités au sein du groupe? Qui est Georges? Etc., etc. Des questions, toujours les mêmes, qui depuis plus de 6 mois m'ont été posées des dizaines de fois. Je suis confrontée avec des camarades du groupe, notamment avec Gisèle Guillemot. Nous conservons la même attitude, le même système de défense. Nous ne parlons pas. Ce qui a pour résultat d'exaspérer les policiers allemands et, finalement, pourrait nous coûter cher. Mais qu'importe, les jeux ne sont-ils pas déjà faits? J'ai fait plusieurs voyages rue Boissy-d'Anglas. C'est au cours de l'un d'eux qu'un soldat allemand s'aperçoit que j'ai les ongles longs. Il est vrai qu'ils sont vraiment très longs, suffisamment pour que cela se remarque. Il n'a jamais vu cela. Il est horrifié. Je n'avais rien pour les couper, défense d'avoir des ciseaux. Le brave soldat m'en a quand même prêté une paire. J'appréhende toujours autant les interrogatoires car il n'est pas facile, en raison de la pression exercée par nos inquisiteurs, de continuer à se taire. Cependant, il me semble que nous en sommes à la phase finale de l'instruction du procès et que l'on approche du jugement. Faut-il le craindre ou l'espérer? À d'autres moments, je me dis qu'il n'y a pas à se faire d'illusions. Ce procès ne sera qu'une parodie de justice qui aboutira à ma condamnation.